les jeudis de la semaine. Chaque jeudi de la semaine du mois de juillet, une personne en invite une autre pour, le temps d'un apéro dans le jardin des laboratoires, lire à voix haute des textes choisis. Jeudi 9 juillet 2020, Martine Pisani invite Clément Aubert et Yasmine Youssef. Et on commence avec Délie.
Délie, objet de plus haute vertu, de Maurice Sève. Madame, ayant l'arc d'amour en son poing, tirait à moi pour à soi m'attirer. Mais je gagnais au pied et de si loin qu'elle ne sut onc droit me tirer. Dont me voyant sain et sauf retiré, sans avoir fait à mon corps quelque brèche, tourne, dit-elle, à moi et te dépêche. Fuis-tu mon arc, ou puissance qu'il est ? Je ne fuis point, dis-je, l'arc ne la flèche, mais l'œil qui fit à mon cœur si grande plaie. Libre vivait en l'avril de mon âge, de cure exempte, sous celle adolescence, où l'œil, encore non expert de dommage, se vit surpris de la douce présence qui, par sa haute et divine excellence, m'étonna l'âme et le sens tellement que de ses yeux l'archait tout bellement. Ma liberté lui a toute asservie. Et dès ce jour continuellement, en sa beauté gît ma mort et ma vie. C'est la beauté qui embellit le monde, qu'en acquis celle en qui mourant je vis, a imprimé en ma lumière ronde non seulement ses linéaments vifs, mais tellement tient mes esprits ravis en admirant sa mirable merveille que, presque mort, sa déité m'éveille en la clarté de mes désirs funèbres où plus m'allume et plus dont m'émerveille. Elle m'abîme en profondes ténèbres. Suave odeur, mais le goût trop amer trouble la paix de ma douce pensée, tant peu de soi le délicat aimé que raison est par la crainte offensée. Et toutefois, voyant l'âme insensée se rompre toute où gît l'affection, lors au péril de ma perdition, j'ai éprouvé que la peur me condamne. Car grande beauté en grande perfection m'a fait goûter, aloès, être manne. Je préférais à tout Dieu ma maîtresse, ainsi qu'amour le m'avait commandé, mais la mort fière en eut telle tristesse que contre moi son dard a débandé. Et quand je l'ai au besoin demandé, le m'a nié comme pernicieuse. Pourquoi, sur moi, ô trop officieuse, perds-tu ainsi ton pouvoir furieux ? vu quand mes morts délits ingénieuses, du premier jour, m'oxyde de ses beaux yeux.
Qui se délecte à bien narrer histoire, perpétuant des hauts princes les gestes? Qui se triomphe en superbe victoire, ou s'enaigrit aux satyres molestes? Qui chante aussi ses amours manifestes, ou se complaît à plaisamment décrire farces et jeux, émouvant gens à rire? Mais moi, je n'ai d'écrire autre souci, fort que de toi, et si ne sais que dire, sinon crier, merci, merci, merci. Quand l'œil au champ est d'éclairs ébloui, lui semble nuit, quelque part qu'il regarde. Puis, peu à peu, de clarté réjouie, des sous d'un feu du ciel se contregardent. Mais moi, conduit dessous la sauvegarde de cette tienne et unique lumière qui m'offusqua ma liesse première, par tes doux rays aiguement suivi, ne me perds plus en vue coutumière, car seulement pour t'adorer, je vis. Je vois en moi être ce Montforvière, en mainte part pincée de mes pinceaux. Pieds courent l'une et l'autre rivière, et jusqu'aux miens descendent deux ruisseaux. Il est semé de marbre à maintes monceaux, moi de glaçons, lui auprès du soleil, se rend plus froid, et moi près de ton œil, je me congèle, ou loin d'ardeur, je fume. Seule une nuit fut son feu non pareil, las, toujours j'arche, et point ne me consume. Soit que l'erreur me rende autant suspect que le péché de soi me justifie, ne devais-tu autant avoir respect qui toujours vit et qui tout vérifie? Mais l'imposture où ton croire se fit a fait l'offense, et toi et moi irrite. Par quoi, ainsi qu'à chacun son mérite, requiert égal et semblable guerdon, méritera mon léger démérite d'être puni d'un plus léger pardon. Tant tes natures en volonté puissante et volanteuse en son faible pouvoir, que bien souvent à son vuelle blandissante se voit par soi grandement décevoir. À mon instinct, je laisse concevoir un doux souhait qui, non encore bien né, est de plaisir nourri et gouverné, se paissant puis de choses plus hautaines. L'or étant cru en désir effréné, plus je m'attire et plus à soi m'entraîne.
Si doucement le venin de tes yeux, par même lieu au fond du cœur entra, que sans douleur le désir soucieux, de liberté tout seul il rencontra. Mais l'occupant, peu à peu, pénétra, où l'âme libre en grande sûreté vivoit. Alors le sang qui d'elle charge à voix, les membres laissent et fuient au profond puits, voulant cacher le feu que chacun voit, lequel je couvre et scellé ne le puis. Moins je la vois, certes, plus je la hais. Plus je la hais, et moins elle me fâche. Plus je l'estime, et moins compte j'en fais. Plus je la fuis, plus veux qu'elle me sache. En un moment, deux divers traits me lâchent. Amour et haine, ennui avec plaisir. Forte est l'amour qui l'or me vient saisir, quand haine vient et vengeance me crie, ainsi me fait haïr mon vain désir, celle pour qui mon cœur toujours me prie. Si le désir image de la chose que plus on aime est du cœur le miroir, qui toujours fait par mémoire apparoir celle où l'esprit de ma vie repose, à quelle fin mon vain vouloir propose de m'éloigner de ce qui plus me suit. Plus fuit le cerf et plus son le poursuit, pour mieux le rendre au rais de servitude. Plus je m'absente, et plus le mal s'ensuit, de ce doux bien, Dieu de la maritude. Tant je l'aimais qu'en elle encore je vis, et tant la vie que, maugré moi, je l'aime. Le sens et l'âme y furent tant ravis que par l'œil faut que le cœur la désaime. Est-il possible en ce degré suprême que fermeté son outre-part révoque ? Tant fut la flamme en nous deux réciproque que mon feu, lui, quand le sien clair m'appert, mourant le sien, le mien tôt se suffoque, et ainsi, elle en se perdant me perd. Le fer se laisse et fourbir et brunir pour se gagner avec son lustre gloire, où mon travail ne me fait qu'embrunir, ma foi passant en sa blancheur l'ivoire. Je contendrai par-dessus la victoire, mais hasardant hasard en mes malheurs, las, je me fais dépouille en mes douleurs, qui me perdant au perdre me demeure, me demeurant seulement les couleurs de mes plaisirs qui, me naissant, me meurent. Le corps travaille à force énervée, se résolvant l'esprit en autre vie. Le sens troublé voit chose controuvée par la mémoire en fantasme ravi. Et la raison étant d'eux asservie, non autrement de son propre délivre, me détenant sans mourir et sans vivre, en toi des quatre amis leur guérison. Donc, à tort ne t'ont voulu poursuivre le corps, l'esprit, le sens et la raison.
comme celui qui, jouant à la mouche, étend la main après le coup reçu, je cours à moi quand mon erreur me touche, me connaissant par moi-même déçu. Car lorsque j'ai clairement aperçu que de ma foi pleinement elle abuse, cette me soit, dis-je, dernière excuse, plus je ne veux d'elle aucun bien chercher. L'ai-je juré ? Soudain je m'en accuse, et maugré moi, il me faut chevêcher. L'été bouillait et madame avait chaud. Par quoi amour vitement se débande, et du bandeau l'éventant bas et haut, de ses beaux yeux excite flamme grande, laquelle, au voile et puis de bande en bande, saute aux cheveux dont l'enfant ardent fume. Comment, dit-il, est-ce donc ta coutume de mal pour bien à tes serviteurs rendre ? Mais c'est ton feu, dit-elle, qui allume mon chaste cœur où il ne se peut prendre. Continuant, toi, le bien de mon mal, à t'exercer comme mal de mon bien, j'ai observé pour voir ou bien ou mal si mon service en toi militait bien. Mais bien connu apertement combien mal j'adorais tes premières faveurs. Car savourant le jus de tes saveurs, plus doux assez que sucre de madère, je crus et crois encore tes défameurs, tant me tient sien l'espoir qui trop m'adhère. Par le pensée qui forme les raisons, comme la langue à la voix les mots dicte, j'ai consommé maintes belles saisons en cette vie heureusement maudite. Pour recouvrer celle à moi interdite par ce tyran qui fait sa résidence, là où ne peut, ne sens, ne providence, tant et partout cauteleusement fin. Ce néanmoins, maugré la repentance, j'espère, après long travail, une fin. Dans son jardin, Vénus se reposait, avec amour, sa tendre nourriture, lequel je vis lorsqu'il se déduisait et l'aperçut semblable à ma figure. Car il était de très basse stature, moi très petit, lui, pâle, moi, transi. Puisque pareil, nous sommes donc ainsi, pourquoi ne suis second Dieu d'amitié ? Las, je n'ai pas l'arc ne lettré, aussi pour émouvoir ma maîtresse à pitié. L'ardent désir du haut bien désiré, qui aspirait à celle fin heureuse, a de l'ardeur si grand feu attiré que le corps vif est déjà poussière ombreuse. De ma vie en ce point malheureuse, pour vouloir tout à son bien condescendre, et de mon être ainsi réduit en cendres, ne m'est resté que ces deux signes-ci. L'œil larmoyant pour piteuse te rendre, la bouche ouverte à demander merci.
Te voyant rire avec si grande grâce, ce doux sourire me donne espoir de vie, et la douceur de cette tienne face me promet mieux de ce dont j'ai envie. Mais la froideur de ton cœur me convie à désespoir, mon dessein dissipant. Puis ton parler du miel participant me remet sur le désir qui me mord. Par quoi tu peux, mon bien anticipant, en un moment me donner vie et mort? L'oisiveté des délicates plumes, lit coutumier, non point de mon repos, mais du travail où mon feu tu allumes, souvent te fois, outre heure et sans propos, entre ces draps me détient indispos, tant elle m'a pour son faible ennemi. Là, mon esprit son corps laisse endormi, tout transformé en image de mort, pour te montrer que l'or, homme à demi, vers toi suis vif et vers moi je suis mort. Ô an, ô mois, semaine, jours et heures, ô intervalle, ô minute, ô moment, qui consumait les duretés, voire sœurs, sans que l'on puisse apercevoir comment, ne sentez-vous que ce mien doux tourment vous use en moi et vos forces déçoit? Si donc le cœur au plaisir qu'il reçoit se vient lui-même à martyr livré, croire faudra que la mort douce soit, qui l'âme peut d'angoisse délivrer. Le haut pensé de mes frêles désirs me chatouillait à plus haute entreprise, me dérobant moi-même à mes plaisirs pour détourner la mémoire surprise du bien auquel l'âme demeura prise, dont comme neige au soleil je me fonds, et mes soupirs dès leur centre profond si hautement élèvent leur voix vive que, plongeant l'âme et la mémoire au fond, tout je m'abîme aux oublieuses rives. Le jour passé de ta douce présence fut un serein en hiver ténébreux qui fait prouver la nuit de ton absence à l'œil de l'âme être un temps plus ombreux que n'est au corps ce mien vivre encombreux qui maintenant me fait de soi refus. Car dès le point que fut parti tu fus, comme le lièvre accroupi en son gîte, jetant l'oreille, oyant un bruit confus, tout est perdu aux ténèbres d'Égypte. Le souvenir, âme de ma pensée, me ravit tant en son illusif songe que, n'en étant la mémoire offensée, je me nourris de si douces mensonges. Or, quand l'ardeur qui pour elle me ronge contre l'esprit sommeillant se hasarde, soudainement qu'il s'en peut donner garde ou qu'il se sent de ses flammes grevées, en mon pensée soudain, il te regarde comme au désert son serpent élevé.
En toi je vis, où que tu sois absente. En moi je meurs, où que sois présent. Tant loin sois-tu, toujours tu es présente. Pour près que sois, encore suis-je absent. Et si nature outragée se sent de me voir vivre en toi trop plus qu'en moi, le haut pourvoir qui, œuvrant sans émoi, infuse l'âme en ce mien corps passible. La prévoyance sans son essence en soi, en toi l'étant, comme en son plus possible. Pourquoi reçois-je en moi mille arguments dont ma pensée est déjà si entêtée? Vu qu'ils me sont mille nouveaux tourments desquels mon âme en vain est maltraitée, ma face aussi de larmes tempêtées très vainement me montre être à mort teint. Las, ce saint feu qui tend au vif matin par qui amour si feintement nourri, nœud par rigueur, nœud par merci s'éteint, celle l'enflamme et celle le nourrit. Celle l'enflamme et cette le nourrit. En divers temps, plusieurs jours, maintes heures, d'heure en moment à toujours, dedans mon âme, ô dame, tu demeures, toute occupée en contraire séjour. Car tu y vis, et mes nuits et mes jours, voire exemptées des moindres fâcheries, et je m'y meurs en telle rêverie, que je m'en sens hautement contentée, et si ne puis réfréner les furies de cette mienne ardente voulanté. Tout le repos, ô nuit, que tu me dois, avec le temps pour penser le dévore, et l'horloge est compté sur mes doigts, depuis le soir jusqu'à la blanche aurore. Et sans du jour m'apercevoir encore, je me perds tout en si douce pensée, que du veiller l'âme non offensée ne souffre au corps sentir celle douleur, de vains espoirs toujours récompensés, tant que ce monde aura forme et couleur. Le jeune archer veut chatouiller Délie, et se jouant d'une épingle ce point. Le jeune archer veut chatouiller Délie, et se jouant d'une épingle ce point. Lors tout soudain de ses mains se délie, et puis la cherche et voit de point en point. La visitant lui dit, aurais-tu pointé comme moi, poignant tant âprement? Je lui réponds, elle en a voirement d'autres assez, dont elle est mieux servie. Car par ceci le sang bien maigrement, et par les siens tire, et l'âme et la vie. Le cœur de soi faiblement résolu souffrait assez la chatouillante pointure que le trait d'or fraîchement émoulu lui avait fait sans aucune ouverture. Mais liberté, sa propre nourriture, pour expugner un tel assemblement, d'être né libre et fait sert amplement. Y obvier par maintes contre-mines, quand cet archer, tirant tant simplement, montra que force enfin peu à peu mine.
Opinion possible, mal fondée, fantasia sur moi je ne sais quoi. Par quoi, à coups l'aigreur mais redondé, de ses dédains et si ne sait pourquoi. Je m'examine et pense à part tout quoi, si par malice ou par inadvertance, j'ai rien commis, mais sans point de doutance, je trouve bien que celui qui désaime, qui erre en soi par trop grande constance, mais quelle erreur, sinon que trop il aime. Si poignant est l'éperon de tes grâces, qu'il m'aiguillonne ardemment où il veut, suivant toujours ses vertueuses traces, tant que sa pointe incitée en moi peut le haut désir qui, jour et nuit, m'émeut, à labourer aux joues de loyauté. Et tant dur est le mort de ta beauté, combien encore que tes vertus l'excellent, que sans n'en rien craindre ta cruauté, je cours soudain où mes tourments m'appellent. Le peintre peut de la neige dépeindre la blancheur telle à peu près qu'on peut voir, mais il ne sait à la froideur atteindre et moins la faire à l'œil apercevoir. Ce me serait moi-même décevoir et grandement me pourrait l'on reprendre si je tâchais à te faire comprendre ce mal que peut voir l'âme opprimée, que d'un objet comme peste on voit prendre, qui mieux se sent qu'on ne peut exprimer. Amour pleurait, voire si tendrement, qu'à larmoyer il émut ma maîtresse, qui avec lui, pleurant amèrement, se distillait en larmes de détresse. Alors l'enfant d'une éponge les presse et les reçoit, et sans vers moi se feindre, « Voici, dit-il, pour ton ardeur éteindre. » Et ce disant, l'éponge me tendit. Mais la cuidant à mon besoin étreindre, en lieu d'humeur flamme, elle rendit. Des lits aux champs, troussés et accoutrés, comme un veneur s'en allait ébattant. Sur le chemin, d'amour fut rencontré, qui partout va, jeunes amants guettant, et lui a dit, près d'elle voletant, « Comment, vas-tu sans armes à la chasse ?» « N'ai-je mes yeux, dit-elle, dont je chasse, et par lesquels j'ai maint gibier surpris ?» Que sert ton arc qui rien ne te pourchasse, vu mêmement que par eux je t'ai pris?
Lutte résonnant est le doux son des cordes et le consent de mon affection. Comment ensemble, uniment, tu accordes ton harmonie avec ma passion. lorsque je suis sans occupation, si vivement l'esprit tu m'exercites. Corps à joie, hors à deuil tu m'incites, par tes accords, non aux miens ressemblant. Car plus que moi, mes mots tu lui récites, correspondant à mes soupirs tremblants. Entre ses bras, ô heureux, près du cœur, elle te serre en grande délicatesse et me repousse avec toute rigueur, tirant de toi sa joie et sa liesse. De moi plein pleurs et mortelle tristesse, loin du plaisir qu'en toi elle comprend. Mais en ses bras, alors qu'elle te prend, tu te sens point sa flamme dommageable, qui jour et nuit, sans la toucher, me rend heureusement pour elle misérable. Si tu t'enquières pourquoi sur mon tombeau l'on aurait mis deux éléments contraires, comme tu vois être le feu et l'eau, entre éléments les deux plus adversaires, je t'avertis qu'ils sont très nécessaires pour te montrer par signes évidents que si en moi ont été résidents larmes et feux, bataille âprement rude, qu'après ma mort encore, si dedans, je pleure et harce pour ton ingratitude. Souffrir, non souffrir.
Voilà, je voulais remercier Yasmine Youssef et Clément Aubert, puisque ils ont lu quelque chose qu'on dirait plutôt à base, enfin, avec les yeux, plutôt qu'à haute voix. Voilà, donc je les remercie beaucoup de s'être prêtés si vitement, comme dirait Maurice. Au jeu de, de dire des poèmes en vers, en ancien français, n'étant pas des spécialistes, y compris moi-même, de la poésie du XVIe siècle. Et d'ailleurs, je serais absolument incapable de vous expliquer le pourquoi du pourquoi, parce que c'est un grand mystère, ce poète. C'est peut-être pour ça que je l'aime beaucoup. Et que quand les labos m'ont proposé de faire une lecture, je n'ai pas hésité. J'ai pensé à Maurice Sève. Voilà. Et Maurice Sève, en fait, le souffrir, non souffrir de la faim, pour moi, c'est la grande énigme de l'amour, évidemment, et blablabla, quoi. Voilà. Merci, Pascal, merci, François, merci, Margot. Et en fait, moi, je suis incapable de lire parce que je lis très mal. Donc, je suis vraiment très heureuse de l'avoir entendu avec mes oreilles. Cette fois. Si vous avez des questions, j'espère pas trop compliquées. Oui, peut-être pas à moi. Voilà. Non, parce que c'est assez... j'ai un petit peu répété avant. Et les dire, ces textes, c'est absolument... enfin, pour moi, c'est une expérience de les faire entendre. Après, je ne sais pas si c'est trop long, trop court, etc. Voilà. Merci. Merci.